Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre du Lévitique, chapitre 4. On va voir le quatrième sacrifice. On a vu le holocauste, sacrifice tout entier, qui évoque la consécration. Il est brûlé entièrement, ok? On se rappelle de ça. On avait vu l'offrande des gâteaux, seul sacrifice non sanglant, et qui est un acte de reconnaissance envers Dieu. Il y a un sacrifice de reconnaissance, de remerciement, qui lui est un sacrifice sanglant. Et ça, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Et vous vous rappelez de ce qui caractérise ce sacrifice d'action de grâce? C'est une bête qui est offerte à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on offre vraiment à Dieu dans ce sacrifice-là?
La graisse.
Les reins.
Les
reins. Alors, reins et rognons, c'est pareil.
Le foie.
Très bien. Et ça représente quoi? Que représente la graisse?
Les parties les plus qualités de l'animal.
Alors, la graisse représente ce qui est de meilleur. Hein. Il y a différents passages qui disent la graisse du pays, ce qu'il y a de meilleur. Donc, il faut comprendre que là, on est en train vraiment de rentrer dans l'aspect très culturel de l'époque. Qui nous aujourd'hui, si on parle de la graisse, on va dire non, surtout pas, c'est le régime, faut pas. Mais voilà, c'est vraiment, il faut se replacer. Donc c'était le symbole de ce qu'il y avait de meilleur, de plus excellent. Les reins représentent quoi?
Jocelyne.
La force.
Alors la force, ça c'est effectivement les reins peuvent représenter l'énergie extérieure, mais dans ce cadre-là, les reins représentent plutôt l'introspection et ça représente quoi? Le siège des émotions, tout à fait, c'était ça. On était tombé sur des passages qui expliquaient ça. Et puis le foie.
C'est la partie plus lourde.
La plus lourde, parce que le mot foie en hébreu c'est pesant, donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de l'organe le plus lourd.
Le plus important.
Le plus de valeur, le plus vital. Alors que nous, voilà, nous c'est le cœur, enfin c'est un rapport. On utiliserait l'image du cœur alors qu'eux utilisent l'image du foie. Donc ça nous rappelle tout ça, si on cherche à comprendre le sens que ça a, c'est que le sacrifice d'action de grâce doit se faire avec nos cœurs, nos tripes, notre engagement, c'est tout ce que ça représente. L'action de grâce, c'est pas juste du bout des lèvres, Seigneur, merci, mais c'est vraiment une reconnaissance profonde de ce que Dieu fait pour nous. Voilà, donc ça c'était le langage à retenir, qui se complète avec le sacrifice d'action de grâce où il y avait l'huile, le sel, la fleur de farine, mais bon, on va pas revenir sur tout ce qui a été dit. Sinon, vous demandez à Angelina. Chapitre 4. Sacrifice d'expiation. Alors, on va peut-être pas tout lire. Je vais vous lire les deux plus grands chapitres et puis après, je vous montrerai ce qu'il y a un peu d'intéressant. Mais on va commencer quand même. On va lire les mal de versets. Verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qu'il ne doit point faire, si c'est le sacrificateur, le chef religieux de l'époque, en limitant la vision, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Donc, on peut comprendre ça, un sacrifice d'autres disent de culpabilité, un sacrifice de pardon. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang. Et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférant qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il rendra, il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. La même chose. Oh, comme c'est bizarre. Le sacrificateur enlèvera ses parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, ça vous rappelle pas quelque chose?
Si. L'holocauste.
Bingo. L'holocauste. L'holocauste, on offre tout, sauf les quelques éléments qu'on vient de dire, les entrailles. Comme par hasard. Le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu du bois, et c'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Pardon. Donc après, vous allez voir que dans le texte, c'est à peu près la même cérémonie, mais en fait, ce sont les fautifs qui changent. Donc on va relire le paragraphe à partir du verset 13, mais en fait, ce qui change vraiment, c'est l'intitulé, le commencement, verset 13. Tout à l'heure, c'était « si c'était le sacrificateur », maintenant, c'est « si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'il a commis vienne à être découvert, alors l'Assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et l'on emmènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leur main sur la tête et on égorgera le taureau. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera le sang, etc. » On peut passer, verset 18, il mettra du sang sur la corne d'autel, c'est ce qu'on a vu. Verset 19, il enlèvera toute la graisse du taureau, il la brûlera, c'est ce qu'on avait déjà vu. Verset 21, il emportera le taureau hors du camp, et il le brûlera comme le premier taureau, c'est un sacrifice d'action pour l'assemblée. Verset 22, on change encore de catégorie, si c'est un chef qui a péché, même protocole. Verset 27, si c'est quelqu'un du peuple, sous-entendu quelqu'un qui n'a même pas forcément une fonction ou quoi que ce soit, même protocole. On peut quand même lire la fin du verset 26, la deuxième partie du verset 26 dit: c'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Et cela est rappelé, on peut lire le dernier verset de ce chapitre là, là aussi la deuxième partie. Ouais, on va lire le verset 35 dans son entier. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce. Il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Une fois de plus, je ne reviens pas sur les 6 étapes que l'on retrouve là pour apporter un sacrifice à Dieu, mais je voudrais quand même relever un point, la notion d'imposition des mains. La notion d'imposition des mains, c'est la notion de transférer. Et là, on est en train de parler du sacrifice d'expiation. C'est-à-dire que quand la personne fautive apporte son offrande, en l'occurrence un animal, quand il impose les mains sur l'animal, c'est comme si son péché était transféré sur l'animal. C'est un point important, mais qu'il faut garder à l'esprit. Ce qui fait la différence entre le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité, alors que tous les deux c'est une question de péché, c'est que dans le sacrifice d'expiation, il n'est parlé que de péché qui est fait à l'égard de Dieu, contre l'un des commandements de l'Éternel. Et vous verrez que la semaine prochaine, lorsqu'il est parlé du sacrifice de culpabilité ou de réparation, il est parlé également des péchés que l'on commet aux autres. Donc là, c'est véritablement le cas de quelqu'un qui a péché. Il n'a pas fait de mal à quelqu'un, physiquement ou moralement à quelqu'un, mais il sait que devant Dieu, il a péché. Il nous est dit au verset 22, au verset 2, pardonnez-moi, et puis les autres fois. Si quelqu'un a péché involontairement. Je n'ose vous poser la question si vous péchez volontairement ou involontairement. Mais c'est vrai que ça peut nous surprendre. Parce que le fait de savoir qu'on a péché... En fait, pour en arriver tout de suite au but, il faut comprendre que quand il est parlé de péché involontaire, c'est la notion non intentionnelle. C'est un péché qui est fait mais sans préméditation. Contrairement à celui qui pécherait volontairement, au sens d'un péché réfléchi, conscient. Alors il y a un très bon exemple en Nombre, chapitre 15, je vous lis les versets 29 à 31. Il y aura pour vous-même, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de Dieu. Il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Dans cette expression, la main levée, c'est-à-dire que la personne fait quelque chose, mais consciemment, volontairement, intentionnellement. D'ailleurs, il y a d'autres traductions qui ont tout de suite traduit cette expression par les mots délibérément, volontairement, et même par fierté, par revendication. C'est moi qui le fais. Voilà. Et donc, la Bible nous dit, par cet exemple-là, mais on le comprend aussi dans notre vie, que Dieu est prêt à pardonner les péchés qui sont faits de manière involontaire, maladroit, mais que quand on prend et que l'on fait des choses de manière consciente, calculée, que c'est intentionnel, que l'on sait qu'on va faire quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, mais on le fait quand même, avec cette sorte d'arrogance ou d'assurance, sans chercher à résister, alors là, la Bible nous dit, il n'y a pas de pardon pour ça, pour cette situation, pour cette prise de position spirituelle qui là devient non pas une sorte de péché par faiblesse, mais qui est au contraire un péché de prise de position, de délibéré. Évidemment, si la personne se repent, tout est remis à zéro. Mais la parole de Dieu nous parle bien là, que Dieu fait bien la différence entre les péchés involontaires et les péchés volontaires. Dieu pardonne le péché, et c'est sa volonté, mais la personne ne peut recevoir un pardon que si elle-même prend conscience de son péché. Il ne peut pas y avoir un pardon de Dieu pour des gens qui vivent intentionnellement dans le péché. On entend ça, ah oui, Dieu pardonne, alors je vis dans le péché et Dieu pardonnera. Non, ça n'existe pas. Pour ça, il n'y a pas de pardon. Par contre, effectivement, Dieu qui veut pardonner et qui a tout préparé pour pardonner, attend que la personne reconnaisse son péché, s'humilie, qu'il baisse cette main d'arrogance, qu'il perde cette fierté, cette délibération, qu'il s'humilie et Dieu lui fera grâce. Nous retrouvons au verset 8 à 10, la graisse, les reins, la foi, et bien de la même manière, ce sont les mêmes symboles, parce que ça, que l'action de grâce, parce que ça a la même symbolique, la même démarche, ce que Dieu attend, c'est que la démarche de repentance, de demande, de pardon auprès de Dieu soit une démarche sincère, une démarche de cœur. Là encore, pas question de dire « Oh, pardon Seigneur, du bout des lèvres, et puis en fait on n'a absolument pas du tout conscience d'avoir blessé le cœur de Dieu. Ce que Dieu attend, c'est que ce soit vraiment quelque chose qui soit là, comme pris au trip, une démarche sincère, réelle, une démarche de non superficielle, ce qu'on appelle la démarche de repentance. Au verset 11, il nous est dit quelque chose d'assez incroyable. Il nous est dit que la peau du taureau, toute sa chair, sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau tout entier, il l'emportera hors du camp. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas tout simplement dit, une fois qu'on a retiré la graisse, les rognons et le foie, il aurait pu écrire que tout l'animal, que tout le reste soit brûlé à l'extérieur. Mais effectivement, par le fait d'expliciter que même les entrailles et les excréments sont apportés dehors, Cela nous rappelle que l'animal n'est pas seulement un animal, mais que l'animal porte en lui-même le péché qui a été transféré sur lui. Okay ? C'est pour ça que là, dans cette explication, la parole de Dieu nous attire notre attention que même ces excréments, on n'avait pas forcément besoin de ce détail-là, on comprend que c'est tout le reste. Mais pas par ce motif-là, il nous rappelle que l'animal est impur. Parce qu'il a été rendu impur, parce qu'il a, il porte le péché que lui avons transféré en lui imposant les mains. Et donc, il ne peut pas être offert à Dieu sur le parfum, ce qu'on appelle l'autel des parfums. Ce qui est accepté sur l'autel des parfums, c'est la démarche sincère, viscéral, le pardon que la personne exprime au travers de cet animal. Oui, reçois sincèrement ma culpabilité. Mais n'empêche que l'animal en tant que tel qui incarne le péché, lui ne peut pas être apporté. Le péché ne peut pas être un sacrifice agréable au nez de Dieu. Et donc cet animal, lui, est brûlé à l'extérieur, dans un endroit réservé, connu de Dieu, mais à l'extérieur. Alors, il est intéressant aussi de nous rappeler un petit peu le schéma, les grandes lignes, de la représentation qui est faite du temple et de l'extérieur. On pourrait considérer comme trois grandes périodes, trois grands lieux. Il y a l'extérieur du temple qui est le lieu commun. Et après, quand on passait une première enceinte, il y avait la cour. Et dans cette cour-là, c'est là qu'on faisait les sacrifices. Et on peut appeler ça le lieu saint. Et après avoir fait ces sacrifices, on rentrait à l'intérieur du temple qui était le lieu très saint. Même si, pour les habitués, il y a le lieu très saint, mais c'est juste pour montrer qu'il y a bien une étape. Il y a l'extérieur, il y a la cour, et il y a l'intérieur. Et on ne peut pas passer du lieu extérieur au lieu très saint sans ce préambule où se font les sacrifices. Et c'est exactement ce qui nous est dit là. L'animal est apporté, mais on offre à Dieu uniquement ce que Dieu peut accepter, c'est-à-dire la démarche sincère, mais le péché en tant que tel ne peut pas rester dans le temple. Il est brûlé à l'extérieur. Okay. Donc c'est important de comprendre pourquoi effectivement l'animal est brûlé en dehors de la zone du temple.
En fait, c'est une parabole aussi, en fait.
Ah, mais tout est symbolique dans l'Ancien Testament. Il y a une codification,
ça
mais c'est pour ça qu'on...
sous-entendu que nous aussi, on doit être nettoyés comme l'animal.
Exactement. C'était d'ailleurs le sens de l'Holocauste. Parce que comme tu avais dit, nous sommes appelés à nous offrir entièrement, mais on n'offrait pas à Dieu toutes ses entrailles, etc. Parce qu'effectivement, nous... Et ça devait être lavé par l'eau. Pour reprendre ton image, c'est exactement
le complément. C'est comme l'exemple que l'année dernière.
Bien impur. Alors ça nous rappelle... Ça, c'est l'application que l'on doit faire aussi au quotidien, nous rappelant qu'il n'y a rien d'impur qui ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Rien. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 nous dit: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Hier, ce qui était symbolique au travers de cette démarche l'est encore actuellement. S'il n'y a plus de temple, si tout le monde peut venir à l'église, ça c'est pas un problème. Spirituellement, rien d'impur ne rentrera dans le paradis. Il faut qu'il y ait cette démarche de repentance sincère. Notre chair finira dans le trou, c'est pas un problème. Mais notre âme, par cette démarche spirituelle, elle sera purifiée et agréée de Dieu. Il faut donc se repentir et Dieu pardonne. Et plus encore, à l'époque, la vérité s'arrête à la notion de pardon. Mais aujourd'hui, non seulement Dieu pardonne, mais il nous purifie de tout péché. Et c'est la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu ne nous accorde pas seulement un pardon, il nous accorde une vie nouvelle, une délivrance de nos péchés pour vivre une vie qui lui soit pleinement agréable. Alors, le dernier point que l'on fait habituellement, C'est qu'est-ce que représente ce sacrifice vis-à-vis de Jésus ? Bah, une fois de plus, il est celui qui incarne parfaitement le sacrifice d'expiation. Premièrement, parce que Jésus lui-même a été cet animal. Il a incarné le péché. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, où il est écrit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Lui qui était saint, sur la croix, il était exactement cet animal sur qui on avait déchargé tous nos péchés. Jésus, qui était parfaitement saint, est devenu, le temps, je pense, d'un millième de seconde, il a incarné, il est devenu péché. Incroyable. Incroyable. D'où cette expression où Jésus ressent même que le regard de Dieu n'est plus sur lui, juste avant qu'il ne meure. Parce que ce qui est mort à la croix, ce n'est pas le Fils de Dieu en tant que tel, mais c'est le péché qu'il a incarné. C'est ça qui a été tué à la croix. Alléluia. C'est pour ça qu'il est ressuscité glorieux. Ce qui est mort, ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est le péché qui est mort. Parce que le Fils de Dieu, personne ne peut le détruire.
Et
il est ressuscité.
Aussi, qu'on est les fils et filles de Dieu aussi.
Si on laisse le Saint-Esprit vivre en nous et devenir le caractère de Christ. Galates, chapitre 3, verset 13, où il est rappelé cette même vérité, Christ est devenu malédiction pour nous. Donc, dans ce sacrifice d'expiation, c'est déjà Christ qui est véritablement là, comme cet agneau qui a incarné le péché, qu'il est véritablement également cet animal qui a été sacrifié à notre place. Hébreux, chapitre 13, versets 11 à 12, disent « Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Et ça explique pourquoi Christ a été crucifié en dehors de Jérusalem, la ville considérée comme la ville sainte. Et Christ a été crucifié, mis à mort, achevé, à l'extérieur de l'enceinte de Jérusalem. Immolé à la place du pécheur, Jésus fut crucifié sur le mont Golgotha. Ainsi s'accomplit en Christ toute la parole. Amen.